France Culture.
Science en son. Céline Lozen, Guillaume Baldi. Épisode 2. Astronomie, les vibrations du cosmos.
Moi, je trouve ça très intéressant de mettre des phénomènes comme ça en son. On a l'impression de vent dans des structures et on entend les variations de comportement périodique du système qu'on étudie. Donc je trouve ça très intéressant. Simplement, il ne faut pas que les gens imaginent que c'est la réalité locale. C'est-à-dire que ce n'est pas la réalité locale sur place. On n'entend pas ça. Si on était là sur place, on n'entendrait pas ça. Mais si les gens comprennent que c'est une retransmission sonore, alors à ce moment-là, je trouve ça vraiment très intéressant. Et c'est vrai que ça peut aider à ressentir ce qui peut se passer.
Le soleil, c'est très simple, vous allez voir. Celle-là est très jolie. Il y a Saturne qui est très joli parce que Saturne, il y a plein de données de Cassini près de Saturne. Il y a les sons fantomatiques. Et puis, il y a les éclairs d'orage de Saturne. Éclairs d'orage dans l'atmosphère de Saturne, détectés par la sonde Cassini. Sale temps hein, pour les Saturniens.
On pourrait mettre ces étoiles dans des orchestres et chacune serait un instrument. Et on aurait des étoiles peu massives, plutôt froides, comme le Soleil encore plus petite, qui joueraient les violons. Et puis, mes étoiles favorites, qui sont les étoiles géantes rouges, et ben, si elles ne sont pas trop évoluées, ces étoiles qui sont plus grosses, elles joueraient le rôle des violoncelles. Et lorsqu'elles deviennent encore plus évoluées, on a même des contrebasses. À chaque fois, la taille de l'étoile a grandi et le son est devenu plus grave.
Pulsation stellaire, vent solaire, rotation planétaire. Entre science et imaginaire, les astronomes nous font écouter le chant des astres. Car écouter le chant du cosmos n'est pas un pur délire depuis l'Antiquité, mais une réalité moderne qui nous ouvre une fenêtre inédite sur l'univers. L'harmonie des sphères se compose ainsi grâce au progrès des missions spatiales, de l'informatique et du savoir-faire des astronomes, un peu artistes dans l'âme. À l'image de Sylvie Vauclair, astrophysicienne qui étudie les vibrations des étoiles.
J'ai beaucoup travaillé sur toutes sortes de sujets en astronomie et en particulier la musique des étoiles, on peut dire ça comme ça, même si ce n'est pas le terme scientifique. Le terme scientifique, c'est plutôt l'astérosismologie. Et puis, en même temps, en parallèle, je suis musicienne. Donc, je suis musicienne, je ne joue plus d'instrument maintenant, je chante. Voilà, je chante. C'est mon instrument, c'est le corps. Et je trouve ça très important. Et j'ai même un diplôme, pour dire les choses, un diplôme de musique. Voilà, de musique, pour enseigner la musique aux enfants. Alors, la relation entre la musique et l'astronomie, ça date des anciens Grecs, 200-300 ans avant Jésus-Christ. Et en particulier, les pythagoriciens. Je dis les pythagoriciens parce que c'est un groupe qui a existé et on n'est pas sûr qu'il y ait eu une personne qui s'appelle Pythagore. Et donc, c'est une époque où les gens observaient beaucoup le ciel. Donc, ils observaient les planètes, le mouvement des planètes dans l'espace. Et ils avaient l'idée, la plupart de ces anciens Grecs, mais pas tous, avaient l'idée que les planètes tournaient autour du Soleil d'un mouvement circulaire uniforme, c'est-à-dire l'harmonie du monde. Et les mêmes, ou des gens à la même époque, ont commencé à étudier les vibrations des cordes vibrantes, c'est-à-dire vous avez une corde qui est pincée, qui est tenue à chaque bout, et vous la faites vibrer, ça fait un son. Et si vous pincez la corde au milieu, vous la faites vibrer, ça fait le même son à l'octave. Enfin, ce qu'on appelle maintenant l'octave. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Et vous pincez deux fois, ça fait ce qu'on appelle la quinte, etc., etc. Donc, ils ont monté ce qu'on appelle encore maintenant la gamme de Pythagore, qui n'est pas tout à fait celle qu'on utilise maintenant. Une petite correction. Mais ils ont monté la gamme. Et la gamme, la manière dont ils l'ont montée, il y avait cette note de musique. Et les planètes, ce qu'ils appelaient les planètes, c'était ce qui bougeait par rapport aux étoiles. Donc vous aviez les cinq planètes visibles à l'œil nu, et ils ajoutaient à ça le Soleil et la Lune. Et voilà. Donc ça faisait sept planètes. Donc il y avait sept planètes, sept notes de musique, dont l'harmonie des sphères, du coup, l'harmonie musicale, en attribuant symboliquement une note de musique à chaque planète. Bon, ça ne s'appelait pas note non plus. Moi, je parle avec le langage actuel. Donc ça, c'était la musique des sphères de Pythagore. Et c'était quelque chose totalement symbolique, évidemment. Voilà. Et alors, à l'époque actuelle, on continue ce symbole en utilisant la musique par rapport à des observations, etc. Les planètes ne font pas de musique. Il y a de la musique sur les planètes, il y a de la musique, il y a du son dans l'atmosphère des planètes, mais les planètes globalement, en tout cas les planètes terrestres comme la Terre, globalement ne vibrent pas d'une manière globale. Ça vibre à certains endroits, mais il n'y a pas une vibration globale. Peut-être les planètes géantes, mais je crois qu'à l'époque actuelle, on n'en est pas encore tout à fait sûr. Mais les étoiles, donc, qui sont beaucoup plus grosses, ont ces vibrations dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a une petite différence, c'est que les vibrations des étoiles, c'est vraiment du son, même si c'est de l'infrason. En fait, ce qu'on appelle son, ultrason et infrason, c'est par rapport à l'oreille humaine, mais par rapport au monde, c'est pareil. Donc les étoiles, c'est vraiment du son qu'il faut transposer de 17, 18, 19 octaves pour le mettre au niveau audible à l'oreille humaine, mais c'est vraiment du son. Donc en fait, je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus que simplement le symbole en ce qui concerne les étoiles. Donc voilà cette évolution de la musique des sphères depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. C'est pour ça que maintenant j'appelle ça la vraie musique des sphères, la musique des étoiles. C'est des vraies sphères, les étoiles, et qui ont vraiment... Alors, elles font pas de la musique, les étoiles. Je dis toujours, la personne qui fait de la musique, c'est le musicien. Le musicien qui utilise l'instrument pour faire de la musique. Hein, donc c'est pas, quand on dit la musique des étoiles, c'est un petit peu exagéré, mais ça fait rien. C'est le son des étoiles qui peut être utilisé pour faire de la musique.
Donc on est sur le site de Meudon. Alors avant, on disait Observatoire de Meudon, Observatoire de Paris-Meudon. Bon, la dénomination officielle, c'est l'Observatoire de Paris, site de Meudon, parce qu'on fait partie de l'Observatoire de Paris, dont le site principal est dans le 14e à Paris. Mon laboratoire, qui est donc à Meudon, ici, c'est le LIRA, Laboratoire d'Instrumentation et de Recherche en Astrophysique. Bon, là, on est sur le site de Meudon, au pied du bâtiment qui s'appelle la Tour Solaire. C'est un grand cylindre en béton de, 30 ou 40 mètres de haut, avec un disque en haut. Donc, en fait, au sommet de la tour, il y a des miroirs qui renvoient la lumière du soleil à l'intérieur du tube de la tour. Le tube de la tour lui-même, c'est comme un tube de télescope. L'atmosphère y est stabilisée. Et au pied, on a d'autres miroirs qui renvoient la lumière du soleil dans le sous-sol du bâtiment, où il y a un spectrographe, donc un instrument qui décompose la lumière du soleil. Et donc on fait des images et des spectres du soleil, et ça on le fait depuis très longtemps. Alors ça c'est l'un des instruments solaires, l'autre se trouve un peu plus loin sur la pelouse, et avec ces instruments l'observatoire a une collection de, je crois, 120 ans de clichés solaires, donc on peut suivre l'activité du soleil, ce qui veut dire ses cycles d'activité, les éruptions, comment ça varie, comment ça impacte les activités terrestres, ça depuis plus d'un siècle.
À l'Observatoire de Paris-Meudon, site royal historique fondé sous Louis XIV, l'astérosismologue Benoît Mosser et le radioastronome Philippe Zarca observent en son l'activité des étoiles et des planètes.
L'astérosismologie, c'est la sismologie des étoiles. Et pourquoi est-ce qu'on est intéressé à mener des programmes d'astérosismologie? C'est parce que quand on est chercheur, on est curieux. Et quand on est curieux, on veut voir ce qu'on ne voit pas. Alors, il n'y a pas de séisme sur les étoiles, mais les étoiles sont de telles formidables machines énergétiques qu'elles s'excitent elles-mêmes. Il suffit de voir une image du Soleil et on verra en lumière visible qu'il y a de ce qu'on appelle la granulation, parce que ça ressemble à une peau d'orange. Et en fait, cette granulation indique qu'il y a de forts mouvements de convection qui ont participé, comme les mouvements de convection plus profonds, à extraire l'énergie du Soleil et faire que le Soleil brille. Et ces mouvements de convection excitent des ondes. Ces ondes se propagent dans l'étoile, le Soleil est une étoile, et elle résonne, et nous on écoute, pour une étoile comme le Soleil, et maintenant aussi pour plein d'autres étoiles bien moins lumineuses que le Soleil, on écoute, il faut plein de guillemets autour du verbe écouter, mais on écoute leurs vibrations pour permettre aux ondes de raconter ce qu'elles ont vu.
Les astrophysiciens se sont rendus compte, déjà en premier pour le Soleil, et ça c'était en 1968 si je m'en rappelle bien, qu'il y avait quelque chose quand on observait la lumière du Soleil qui était un peu bizarre, un signal comme on dit, c'est-à-dire quelque chose qui se produisait de façon périodique. Et les gens qui ont observé ça ne savaient pas du tout ce que c'était, ils ont publié leur découverte sans comprendre. Et une dizaine d'années plus tard, d'autres astrophysiciens qui étudiaient en détail l'intérieur des étoiles ont compris que ce signal particulier, c'était en fait des ondes sonores, des vibrations du Soleil, des vibrations internes, c'est-à-dire des ondes sonores qui se propagent à l'intérieur du Soleil, qui sont dues en fait à des mouvements de matière. Le Soleil a des mouvements de matière à l'extérieur et ça fait du bruit, une sorte de bruit. Donc des ondes sonores qui se propagent à l'intérieur de la grosse sphère, et qui viennent se réfléchir à la surface, et donc qui font des différences de pression, de lumière et tout ça. Donc là, on a découvert que le Soleil vibre, et vibre à cause d'ondes sonores, c'est-à-dire des ondes de pression, pas des ondes audibles à l'oreille, parce qu'elles sont beaucoup, beaucoup trop graves, ce seraient des infrasons, mais quand même des ondes sonores. Et une dizaine d'années plus tard, c'est beaucoup plus difficile à observer pour les étoiles, mais une dizaine d'années plus tard, il y a eu les instruments qui ont permis de commencer à observer ça aussi pour les étoiles. Donc l'astérosismologie, c'est l'étude des vibrations des étoiles. Le son des étoiles, non seulement c'est pas audible à l'oreille, pour deux raisons. La première, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont des infrasons. Et c'est normal, je dis toujours, des instruments de musique, les petits jouent aigus, les grands ils jouent grave, alors vous imaginez les étoiles. Mais c'est quand même du son. Donc on n'entend pas ce son pour ça, puis aussi il faut dire que le son ne se propage pas dans l'espace. Il vibre, l'étoile vibre, on voit la signature de ses vibrations dans sa lumière, mais il n'y a pas de son qui se propage dans l'espace entre l'étoile et nous. C'est comme le téléphone. Quand vous avez un téléphone portable, vous entendez l'autre personne, mais il n'y a pas de son qui se propage entre l'autre personne et vous. Ça passe par des ondes électromagnétiques. Voilà. Donc c'est pareil. Voilà.
C'est la façon dont ces ondes sonores modifient la surface de l'étoile, modifient la luminosité ou bien modifient les mouvements d'ensemble que l'on voit qui est enregistré. Et c'est par cet enregistrement, par exemple, de variations de luminosité que l'on voit le résultat de ces ondes. Ces ondes, après, on en analyse le contenu en fréquence. Analyser le contenu en fréquence, c'est tout simplement exprimer ce qu'on entend sous forme de notes de musique. Et là, les spectres qu'il y a sous les yeux, on pourrait, ce serait un exercice amusant, les traduire en notes. Ça reviendrait un peu au même. Il y a aussi, dans ce que je vous montre, des harmoniques. Il y a la signature simplement d'un corps qui résonne.
Ce que vous dites, c'est que les étoiles comme le Soleil sont des objets qui vibrent, il y a des oscillations qui les parcourent. Et ce qu'on peut mesurer, c'est dans la lumière qu'on reçoit, l'empreinte de cette variation. Donc c'est bien de la lumière qu'on analyse et on peut en tirer donc ces spectres qui traduisent ces mouvements dont on peut déduire, je ne sais pas, la dynamique et la structure interne. On peut étudier l'étoile de cette manière-là.
Tout à fait. Je vais même prendre le cas d'une étoile parce que ça se comprend aussi bien que le Soleil. les mesures que l'on fait correspondent à l'enregistrement de la lumière de cette étoile au fil des jours, des semaines, des mois, des années. Les spectres sous vos yeux, là, sont basés sur des observations qui ont duré 4 ans dans l'espace, quasiment continu. On a observé quasiment tout le temps, ce qui est possible dans des conditions spatiales et non pas sur Terre. Et au fil du temps, si on exprimait la luminosité de l'étoile en fonction du temps, eh ben, on aurait simplement un trait horizontal qui est la luminosité qui, si on n'y regarde pas en détail, ne varie absolument pas, est très stable. Et si on grossit 1000 fois les variations, il ne se passe pas grand-chose, sinon qu'on se rende compte « Ah oui, tiens, cette étoile, elle doit tourner ». Et on voit des tâches passer avec une certaine régularité. Et si on grossit encore 1 million de fois les petites variations, on se dit « Ouh là là, mais là, il se passe plein de choses ». Alors, on va travailler dans ce qu'on appelle l'espace de Fourier, l'espace des fréquences. C'est une transformation mathématique très utile pour aller rechercher, comme je disais tout à l'heure, les notes sur lesquelles cette étoile résonne. Et quand on voit ces notes, on se rend compte qu'elles ont une répartition très, 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 très régulière. Là-dessus, un œil observé verra très rapidement que cette étoile a un cœur qui tourne et avec simplement un peu d'arithmétique, va se dire « Ah bah tiens, j'ai tel paramètre pour cette étoile ». Eh ben, voilà sa masse. Et on peut exprimer la masse en unité de masse du Soleil. Et voilà son rayon. Et on peut aussi exprimer son rayon en unité de rayon du Soleil. On a accès à des informations avec une précision excellente. On arrive à obtenir des paramètres fondamentaux de l'étoile, sa masse, son rayon, mais aussi sa rotation, son degré évolutif. Et puis si on a des modèles, on a accès à un paramètre qui est le Graal actuellement dans notre domaine pour faire la physique stellaire de demain, qui est l'âge de l'étoile.
L'étoile donc bêta de la constellation de l'Aigle.
Claude Samuel Lévine, musicien et compositeur, crée des symphonies stellaires grâce aux données fréquentielles fournies par Sylvie Vauclair.
C'est un arrière-plan de synthétiseur d'étoiles. Fréquence max, c'est une... Et à partir de ces notes-là, eh bien, j'ai composé quelque chose de musical, beaucoup plus calme, pas forcément une mélodie.
Ça, c'est contemplatif, en fait.
Contemplatif, complètement, c'est méditatif, c'est... voilà.
Et donc là, il y a 9 synthétiseurs là, pour celui-ci.
Voilà, il y a 9 oscillateurs pour cette étoile.
Une intention derrière, comment vient l'intuition, l'inspiration
après, c'est en fonction des notes de musique, ça va m'inspirer. Et ensuite je me dis, bon tiens, bêta de l'Aigle, alors la constellation de l'Aigle, bon ben j'imagine effectivement un aigle qui va un petit peu planer très très, donc bon je me dis, est-ce que ça correspond, j'ai quelque chose comme ça qui me vient en tête quand même, est-ce que ça peut correspondre à une image qui est intéressante. Oui, on peut associer effectivement un aigle qui plane doucement et qui est en contemplation.
Qu'on pourrait écouter maintenant ces ondes sismiques, même si elles ont fait l'objet d'un processus de sonification. Parce qu'encore une fois, on parle de la lumière, est-ce qu'on pourrait écouter ?
Si on veut les écouter, il faut faire comme a fait mon collègue Éric Michel, il faut prendre les séries temporelles, c'est comme ça qu'on appelle la variation du signal au cours du temps, et les accélérer, et là il les accélérait 2 millions de fois.
Benoît Mosser.
Il l'a fait pour des étoiles qui ressemblent au Soleil, ou pour des étoiles plus évoluées. Ces étoiles évoluées, elles sont plus grandes, et il y a un peu de physique simple qui nous explique qu'un corps, plus il est grand, plus il est gros, moins il oscille vite, et plus il est petit, plus il oscille rapide. Là, le Soleil, c'est une des étoiles les plus petite en termes de rayon, pour lequel on peut mener l'étude sismique.
Aiguë, elle sonnera plus aiguë qu'une géante rouge, par exemple.
Voilà. Alors, et dans cette expérience sonore d'écouter les étoiles, elle peut être vue comme transcendantale parce que les étoiles nous parlent. Elle peut être vue musicalement comme une horreur absolue parce que c'est de loin pas de la musique.
Il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'harmonieux, donc.
Non. Nos compositeurs font ça mieux. Sinon, j'ai oublié de vous préciser que oui, ces étoiles que l'on observe sont des étoiles plutôt comme le Soleil, c'est-à-dire plutôt des étoiles qu'on appelle froides. Alors, les astrophysiciens, ils sont un peu dingues, hein, parce que le Soleil est une étoile froide, alors que sa température de surface est de l'ordre de 6000 degrés. C'est-à-dire que 6000 degrés pour une étoile, c'est pas très chaud quand les étoiles les plus massives montent à 10 000, 20 000, 100 000 degrés. Et alors ces étoiles-là oscillent aussi, mais avec des oscillations plus compliquées. Là, les spectres que je vous montre partout sont des étoiles plutôt froides, voire comme le Soleil ou comme le Soleil évoluera en géante rouge. Mais donc je vous ai promis les sons, on va les écouter. On commence cette séquence, on a donc amplifié d'un facteur 2, millions, les fréquences. Là où elles vibrent à quelques millièmes de période par seconde, on est maintenant dans des fréquences audibles. On commence par écouter une étoile qui est analogue au Soleil. Le son est relativement aigu. Et puis, on a des étoiles plus évoluées. Ces étoiles plus évoluées ont vu leur rayon grandir et comme leur rayon a cru, leurs vibrations sont plus graves et le son est plus fort. Alors entendre le son plus fort, c'est compliqué parce que ça dépend vraiment du haut-parleur qu'on utilise pour l'écouter, mais le fait que le son soit plus grave, c'est très clairement audible. Et puis l'étoile évolue encore, atteint le stade de géante rouge, il n'y a plus d'hydrogène à brûler à l'intérieur, l'étoile a dû singulièrement grossir et le son devient là carrément très grave. La dernière étoile que l'on écoute est une étoile qui a un rayon qui est 60 fois plus grand que celui du Soleil. Alors on ne peut pas dire que le son est 60 fois plus grave, mais le son est plus grave dans un rapport qui dépend de ce facteur 60. Une étoile n'a jamais eu la prétention d'être Mozart. Une étoile, elle oscille comme elle peut osciller, et son spectre d'oscillation va dépendre de sa masse, de son rayon, de son âge, et puis après ça, elle a plus beaucoup de latitude pour faire varier la musique. Donc nos compositeurs à côté, ils nous montrent des partitions qui sont autrement plus vivantes et autrement plus diversifiées que cette musique des étoiles. Cette musique des étoiles, c'est pour nous, c'est du bruit. Parce que ça correspond vraiment à une répartition indéfinie de fréquences.
En marge, bien sûr, de mon travail d'astrophysicien,
Philippe Zarka.
J'ai fait ce qu'on appelle la sonification des données, c'est-à-dire transformer des données astrophysiques, des données d'observation, en son. Alors, pourquoi ? La raison principale, c'est que dans le domaine dans lequel je travaille, c'est-à-dire les ondes radio, l'étude des planètes, des exoplanètes, des étoiles en ondes radio. Jusque très récemment, ça a changé récemment, mais jusque très récemment, on ne faisait pas d'image. Et ça, c'est parce que, alors, pour dire les choses de manière simple, assez rapide, les ondes radio, ce sont des ondes lumineuses, mais de longueur d'onde beaucoup plus grande que la lumière visible. Bon. Et comme la longueur d'onde est beaucoup plus grande, à taille équivalente, les instruments sont beaucoup plus myopes. Parce que la myopie d'un instrument augmente avec la longueur d'onde. Voilà. Donc, en radio, aux fréquences où je travaillais, c'est-à-dire des fréquences de dizaines, centaines de mégahertz, c'est à peu près les mêmes fréquences que celles de la radio FM, on travaille au-dessus et au-dessous de la bande FM, on ne faisait pas d'image. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? On enregistrait les données en fonction du temps et de la fréquence. Donc, on avait en fait des distributions d'énergie en fonction du temps et de la fréquence. Quand je voulais communiquer mes recherches, alors pour travailler dessus et discuter avec les collègues, pas de problème, on comprend très bien ça, et puis on manipule nos données avec un ordinateur. En revanche, quand je voulais communiquer ces recherches au public, lors de journées portes ouvertes, d'expositions, de ce qu'on veut, c'était très difficile. Je m'apercevais que les collègues qui pouvaient montrer des images de galaxies, c'était facile, ça parle assez facilement aux gens, et puis on peut du coup discourir sur la science qu'il y a derrière. Moi, les images étaient assez hermétiques, et finalement assez ennuyeuse en fait pour les gens si on s'appuyait sur ces images. Donc je me suis un peu gratté la tête et Je me suis dit, mais en fait, ces images, qui sont donc des distributions d'énergie en fonction du temps et de la fréquence, elles ont la même structure que des sonogrammes. Un sonogramme, c'est aussi la distribution de l'énergie sonore, en l'occurrence, en fonction du temps et de la fréquence. Et donc, je me suis dit, je pourrais interpréter ces données comme des sonogrammes. Alors évidemment, pour faire ça, il faut, par exemple, changer de fréquence. Moi, mes données, elles peuvent être acquises entre, par exemple, 10 et 30 MHz, alors que les ondes sonores, elles, vont être entre 0 et 20 kHz, donc 1000 fois plus bas. Donc il faut translater les fréquences et les comprimer. Il faut aussi, en général, comprimer le temps, parce que souvent, mes observations durent des heures. Je ne vais pas faire un son qui dure des heures, je vais le faire durer des dizaines de secondes. Donc il faut le comprimer aussi. Du coup, le plus simple, c'était d'écrire un programme informatique qui réalisait ce codage, et donc qui partait d'une image temps-fréquence obtenue à partir de données astrophysiques, et qui allait calculer le wave, en quelque sorte, le fichier son, qui était l'exacte correspondance de cette image, interprétée comme un sonogramme. Alors, vous voyez, c'est bizarre, parce que pulsar, on s'attendrait à entendre quelque chose qui pulse. Or, pas du tout, on entend un son qui a l'air de descendre en fréquence, des aigus vers les graves en permanence. C'est une illusion sonore bien connue. Quand on a des partitions avec des séries de notes qui vont en permanence des aigus vers les graves et qui se succèdent, on entend ce glissando permanent qui va des aigus vers les graves, parce que les notes rentrent vers les aigus, on ne les entend pas, et puis on les entend glisser. Alors là, c'est pareil, on entend en fait des signaux qui glissent des hautes vers les basses fréquences. Alors revenons un petit peu en arrière. Qu'est-ce que c'est qu'un pulsar d'abord ? C'est une étoile, un peu plus massive que le Soleil, mais une étoile morte. Comme elle est morte, elle n'a plus de carburant hydrogène pour faire la fusion de l'hydrogène dans son cœur, et donc elle s'est effondrée sur elle-même, après en général une explosion qui a donné une supernova, donc un objet très brillant et assez catastrophique. Et il reste un objet de la masse du Soleil. Donc le Soleil, hein, pour vous donner une idée, c'est quand même 300 000 fois la masse de la Terre. Hein. Et cet objet, le Soleil, lui, fait 1 400 000 km de diamètre. Un pulsar va faire 20 km de diamètre pour la même masse. Donc c'est une matière d'une densité fabuleuse. Comme l'objet s'est effondré, il a énormément accéléré sa rotation. Même phénomène que la patineuse ou le patineur qui replie ses bras et qui tourne plus vite. Donc le Soleil tourne en un mois. Un objet de la masse du Soleil qui s'effondre dans une boule de 10 km de rayon, 20 km de diamètre, va tourner en une seconde, typiquement. Et donc, vous imaginez cette boule de 20 km qui tourne en une seconde. Par ses pôles magnétiques et des faisceaux d'ondes radio qui sortent, et comme en général l'axe magnétique n'est pas aligné avec l'axe de rotation, ces pôles magnétiques vont précesser comme un axe de toupie. Si on est bien situé par rapport au pulsar, on voit en fait une impulsion à chaque fois qu'on est balayé par le faisceau. En fait, un pulsar ne pulse pas. C'est un très mauvais nom qui a été donné à l'origine en 67 quand l'objet a été découvert par Jocelyn Bell, radioastronome anglaise. On aurait dû appeler ça un rotard ou un rotatar, parce qu'en fait ça tourne. Et c'est la rotation qui donne cette impulsion apparente. Bon, on a gardé pulsar, c'est plus joli. En réalité, on devrait entendre des impulsions, mais ces impulsions sont émises à toutes les fréquences en même temps, mais quand elles se déplacent du pulsar jusqu'à nous, et un pulsar peut être très loin de nous, il peut être à des centaines d'années-lumière de nous, quand elles se déplacent, il se trouve que, comme l'espace n'est pas entièrement vide dans la galaxie, entre les étoiles et nous, le peu d'électrons qui est présent va modifier la propagation des ondes radio. Les ondes de plus haute fréquence se déplacent un petit peu plus vite que les ondes de plus basse fréquence. Alors c'est vraiment très peu, puisque sur une distance de par exemple une centaine d'années, il va y avoir les hautes fréquences qui vont arriver quelques secondes plus tôt que les basses fréquences. Donc les hautes fréquences vont avoir mis une centaine d'années et les basses fréquences une centaine d'années et quelques secondes. Et on mesure la différence. Et c'est ce glissement qu'on entend dans le cas d'un pulsar à basse fréquence. On peut en fait reconstituer le signal du pulsar tel qu'il était à l'émission. Alors j'ai pas eu cette idée à partir de zéro, il faut bien le dire. J'ai eu en réalité trois sources d'inspiration dans les années 90 qui se sont mêlées pour faire que finalement j'ai écrit ce code. La première source, c'était le vieux PI, principal investigateur, c'est-à-dire chef scientifique d'expérience radio de très basse fréquence sur les sondes voyageurs, sur la sonde Galileo, donc qui s'appelait Don Gurnett. Il captait des données. Alors lui a vraiment très très basse fréquence, des ondes radio, donc électromagnétiques, mais de fréquence extrêmement basse, entre 0 et 20 kHz. donc directement dans la gamme audio. Et il avait imaginé de brancher ces données directement en analogique sur un haut-parleur. Donc il jouait ces données comme des sonogrammes, mais sans aucune compression temporelle, compression spectrale, rien du tout. Bon, ça c'était la première chose. Je me suis dit, ah ouais, ça rend bien. La deuxième chose, c'est que j'ai entendu parler, alors vraiment sans jamais le voir, j'ai entendu parler d'une machine qui avait été faite par Yanis Xenakis à l'IRCAM, qui s'appelait LUPIC, unité de programmation, je ne sais plus, interactive. Et en fait, il s'agissait, alors l'émission avait décrit de ce dont il s'agissait d'une table graphique où des gens pouvaient dessiner, des enfants en particulier, et ensuite on traduisait les dessins en son. Je ne sais absolument pas comment ça marchait, mais ça m'a parlé. Je me suis dit, oui, effectivement, on peut traduire des images en son en les considérant comme sonogrammes. Et puis la dernière source d'inspiration, j'avais une bonne amie à l'université qui a été employée assez longtemps après par la Cité des sciences de la Villette au moment où elle se mettait en place, dans les années 90. Et c'est elle, par exemple, Françoise Thomas, bonjour, qui avait réalisé les installations de l'exposition sur le son et l'oreille. Et il y avait un dispositif qui était assez très simple et assez astucieux. C'était un microphone relié à un ordinateur et sur l'écran de l'ordinateur défilait le sonogramme du son dans le microphone. Donc on parlait, on tapait dans les mains et on voyait le son. Et je me disais, mais ces images sont similaires à celles que j'ai moi avec mes ondes. Et donc le mélange de ces trois-là m'a fait traduire mes données astrophysiques en son par l'intermédiaire d'un code spécialement écrit. Alors quand j'ai eu cette idée au début, c'était donc tout début des années 90, et je travaillais à ce moment-là, après avoir travaillé quelques années sur la mission Voyageur et ses observations radio, je travaillais sur la mission Ulysse, qui était une sonde qui était allée survoler Jupiter avant de se diriger ensuite vers les pôles du Soleil, mais très loin des pôles, hein, mais vers les pôles du Soleil. Et donc la première sonification que j'ai faite, c'était des données obtenues par la sonde Ulysse près de Jupiter, j'en ai fait plusieurs. Et je vais vous faire écouter la première, si vous voulez. Voilà, alors donc là, ce qu'on va entendre, en fait... Alors, oui, j'ai fait une chose un petit peu aussi nouvelle, qui n'était pas faite avant. C'est que comme j'avais une image que j'interprétais en sonogramme et que je traduisais en son, j'ai systématiquement réalisé des vidéos dans lesquelles l'image est balayée par un curseur en même temps qu'on entend le son à l'endroit où c'est balayé. Donc on peut faire l'analogie entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Évidemment, à la radio, on ne va pas voir grand-chose. Mais voilà, vous pouvez aller sur le site Les Chants du Cosmos, et vous trouverez ces exemples-là. Donc voilà le premier exemple que j'ai sonifié. Alors il s'agit de 10 secondes de son qui représentent 10 heures de données. 10 heures, c'est une rotation de la planète Jupiter. Jupiter possède plusieurs radiophares naturels dans son environnement magnétique, et ce sont eux qui ont été traduits en son. J'avais pas d'expérience, j'ai choisi la gamme sonore au hasard, et ça a donné ça. Voilà, c'est bref, c'est même 5 secondes, c'est bref, ça commence et ça s'arrête brutalement, il n'y a pas eu de traitement, et c'est 10 heures d'une rotation de Jupiter. Donc voilà, quand on regarde l'image, donc là, la rotation de Jupiter, hein, on voit effectivement, en fonction du temps et de la fréquence, on voit plusieurs patterns, plusieurs spots intenses, à divers instants, à diverses fréquences, qui correspondent à ces espèces de faisceaux de phares totalement naturels, hein, qui sont liés aux électrons qui se déplacent dans le champ magnétique de Jupiter et qui vont produire des ondes radio qui parfois sont dirigées vers nous. Et donc on va voir ces faisceaux qui balayent l'observateur. Et ils changent en fréquence, c'est ce qui donne ces sons qui montent et qui descendent. Et j'avais fait une conversion très brève. Donc on peut réécouter là. Bon alors c'était assez brut de fonderie. Donc je me suis dit bon c'est intéressant, on va aller voir plus loin. Donc, toujours en restant près de Jupiter, voilà par exemple un petit film qui va condenser en une vingtaine de secondes, je crois une dizaine de secondes, 4 jours d'observation. Ces 4 jours d'observation, ils sont assez intéressants parce que c'est le moment où la sonde Ulysse est arrivée près de Jupiter. Alors, quand elle est loin, au début, elle est hors de ce qu'on appelle la magnétosphère, c'est-à-dire la bulle magnétique de Jupiter. Et donc, on va entendre un son récurrent qui correspond à la rotation toutes les 10 heures de la planète Jupiter et de ses radiophares qu'on a entendus juste avant. Mais à peu près à mi-chemin du son, on va entendre un grondement à basse fréquence dans les graves, et ça correspond au fait que la sonde Ulysse rentre dans la magnétosphère de Jupiter, cette bulle magnétique, et cette bulle, elle emprisonne les ondes radio de basse fréquence. Et là, on rentre Voilà, avec ce son très grave, on rentre dans la bulle magnétique de Jupiter, qui est pleine d'ondes radio de très basse fréquence. Alors, effectivement, on m'a déjà posé plusieurs fois la question, est-ce que ça sert scientifiquement ? Moi, je dirais, a priori, pour moi, je dirais non, parce que, d'abord, les yeux sont beaucoup plus discriminants que les oreilles pour analyser les informations, et donc l'image avec ses niveaux de couleurs, ses patterns que l'on voit tous ensemble, en fait, graphiquement dans l'image, est plus riche d'informations que le son. Mais, néanmoins, donc moi, je m'en sers pas, comme ça. Et puis, les données numériques qui sont derrière sont encore plus riches d'informations. On va les manipuler avec un ordinateur. Mais quand même, je mettrai deux bémols à ça. D'abord, y a des gens qui m'ont fait remarquer qu'il y avait des malvoyants, en fait, qui pouvaient éventuellement avoir une notion de ces phénomènes en écoutant ces sons, voire même, paraît-il, il y aurait des astrophysiciens malvoyants qui s'en serviraient comme outil de travail. Bon, ça doit être très très marginal. Alors le deuxième intérêt, et ça vraiment je l'ai vu utilisé, je ne sais pas si vous vous rappelez du film Contact, donc avec Jodie Foster, et dans ce film, au début du film, le radiotélescope de je ne sais plus où, Arecibo ou Parkes, détecte un signal extraterrestre. En fait, ils s'aperçoivent que c'est nos émissions qui nous ont été renvoyées en fait par les extraterrestres. Bon, ou par quelque chose. Et au début du film, il y a un ingénieur ou un technicien au radiotélescope qui est aveugle, je crois, et qui a un casque sur les oreilles et qui dit « Ah, j'ai entendu un truc bizarre dans les émissions à 4 gigahertz. »
En arrière.
Hein ?
Revenez pas en arrière, vous aviez quelque chose. Là.
Juste là ?
Oui, vous entendez ? Oui, là,
ouais.
C'est ça.
Bon, 1221.46. C'est bien dans la bande L.
Vérifiez au racks.
Je suis dessus.
Alors, c'est insuffisamment expliqué, parce qu'évidemment, 4 GHz, c'est la fréquence d'onde radio typique qu'on peut observer avec des radiotélescopes, mais c'est très 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 au-dessus de ce qui est audible par l'oreille humaine. Donc on peut rien entendre à 4 GHz, hein, c'est même pire que des ultrasons.
Bon.
En revanche, ce que voulait peut-être dire le réalisateur, ce qu'il voulait peut-être dire, c'est que une petite bande de signal autour de 4 GHz a été en fait extraite et redescendue dans la bande audio, et là, en écoutant, on peut avoir de l'information. Et en réalité, j'ai déjà été témoin de l'utilisation de cette technique dans un contexte d'observation astrophysique. Il se trouve que quand j'étais jeune, il n'y avait pas encore d'instruments de radiotélescope numérique très développés. Donc les engins étaient électroniques, analogiques. Et quand on observait Jupiter, on s'intéressait à cette époque à des sursauts très rapides de Jupiter. Je vous en ferai écouter juste après. Des émissions qui dérivent très vite des hautes vers les basses fréquences. Donc ça fait des espèces de tchoup, 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 comme ça. Bon. Et alors, ça se produit assez rarement. Et comme quand ça se produit, il faut les enregistrer à très grande vitesse, ça produit des grosses masses de données. À l'époque, on ne pouvait pas enregistrer en permanence ces grosses masses de données. Donc en fait, on passait des nuits entières devant un oscilloscope sur lequel le signal était traduit en une ligne lumineuse. Et quand on voyait un signal qui ressemblait à ce qu'on attendait, on déclenchait l'enregistrement. C'était extrêmement fatigant de rester l'œil rivé à l'oscilloscope. Il y a des gens, pas moi, mais j'ai des collègues, qui ont en fait extrait une petite bande de fréquence mise dans un casque audio. Et avec un casque audio, quand ils entendaient un espèce de bruit blanc, c'est qu'il ne se passait rien. Et quand ils commençaient à entendre des crépitements, c'est que ces événements rapides commençaient à se produire. Et c'est beaucoup plus facile et reposant d'avoir un casque de somnolet en ayant une écoute de fond, en fait, qui va détecter la présence de crépitement, que de rester rivé à un écran. Et donc, ça pouvait servir dans ce cas-là. Mais vous voyez, c'est des utilisations assez marginales, quand même. Je vais vous faire écouter ces sursauts rapides de Jupiter. Alors, la différence avec ce qu'on a entendu avant, c'est qu'il n'y a pas de compression temporelle. C'est-à-dire qu'on va entendre 20 secondes de son, et ce sont effectivement 20 secondes d'observation. Donc, les phénomènes sont très rapides. Vous voyez qu'on entend des chip-chip, qui sont vraiment des émissions qui glissent des hautes vers les basses fréquences, des aigus vers les graves. Et ce sont en fait des faisceaux d'électrons qui vont glisser le long du champ magnétique de Jupiter. On peut vraiment interpréter ce qu'on entend ici et ce qu'on voit sur l'image correspondante comme de la physique en fait, qui se produit près de Jupiter.
Et alors il se trouve que le Soleil, il résonne non seulement en sol dièse, mais en mode 2 d'Olivier Messiaen. Et donc j'ai été inspiré par la musique de Messiaen, j'ai fait quelque chose de à la Messiaen. Gamelan, donc avec le gamelan ici, Celesta Piano Vibra, et les cuivres. qu'on a... Ensuite, on va avoir une éclipse. Alors, j'ai mis en arrière-plan dans la vidéo, j'ai des illustrations de... Parce que je me suis pas contenté de faire que la musique, mais la musique, pour moi, évoque des couleurs aussi, d'ailleurs. On appelle ça la synesthésie. Il y a certaines personnes qui l'ont. Donc, pour moi, chaque note de musique représente une couleur. Et donc, chaque étoile, il y avait un fond différent, du rouge, du blanc, etc., correspondant au mi, fa... Et là, tout d'un coup, éclipse. La lune passe devant le soleil. Donc ici, j'ai mis le piano, il joue tout autre chose. Le piano, ce qu'il va jouer, le piano évoque la lune en elle-même. Donc c'est pas les notes du soleil, c'est autre chose. Mais on entend, j'ai fait écouter les harmoniques, j'ai séparé certaines harmoniques du soleil pour les faire écouter quand même en arrière-plan, comme si on distinguait des choses sur la couronne elle-même. Et mon dessin, en fait, représente ce que j'ai vu à Étretat le 11 août 99.
Lors de la fameuse éclipse totale. La fameuse éclipse totale.
Voilà. J'ai eu la chance d'être à Étretat. Et elle était vraiment totale, 2 minutes, entre 12h18 et 12h20.
Un côté presque ténébreux, là.
Et attention. On sent l'éblouissement qui arrive. Et j'ai superposé avec la vidéo cette... j'ai recréé, en fait, avec des effets, ce que je l'ai filmé, j'ai fait toute une vidéo, mais ça transcrit mal les couleurs, une vidéo, les photos et les vidéos. Alors que c'était ces couleurs-là, précisément.
On a les zones Martineau qui reviennent chanter.
Voilà, qui reviennent chanter, voilà.
Claude Samuel, je l'ai rencontré en 2009. C'était l'année mondiale de l'astronomie et je m'occupais de l'année mondiale de l'astronomie, de tous les phénomènes, comment dire, grand public, médiatique, etc., dans le grand sud-ouest de la France. Et un jour, il y a un compositeur qui est venu me voir en me disant qu'il avait composé une symphonie de l'espace. Voilà, la symphonie de l'espace. Et il souhaitait que cette symphonie de l'espace soit incluse dans les événements qui avaient lieu dans le Grand Sud-Ouest. Et donc on a fait un superbe concert de cette symphonie de l'espace dans l'entrée de la grotte de Niau, dans les Pyrénées. Il y avait beaucoup de musiciens, enfin un orchestre et tout ça. Et il y avait là-dedans des ondes Martineau et du Thérémine, et c'était Claude Samuel Lévine qui était là pour jouer. Donc je l'ai rencontré comme ça, et on a sympathisé. Et donc c'est pour ça que j'ai tout de suite envie d'aller le voir lui, quand j'ai eu envie de faire de la musique à partir des vibrations des étoiles.
Alors concrètement, comment vous avez collaboré? Vous lui avez fourni des données scientifiques, des fréquences, et lui, il s'est débrouillé avec ça pour en faire des mélodies, des symphonies?
Donc je lui ai fourni les harmoniques des sons de 12 étoiles. Donc j'ai choisi 12 d'une manière symbolique. Il y a 12 demi-tons dans la gamme habituelle. Parmi ces 12 étoiles, il y avait le soleil. Et donc ces étoiles, il y en avait que j'avais observées moi-même. Et il y en avait d'autres où j'avais pris des fréquences dans la littérature. Enfin, c'était d'autres collègues qui avaient observé. Et donc je lui donnais ces fréquences. Et à partir de là, il a synthétisé le son des étoiles d'une manière électronique. Et donc on a pas mal travaillé ensemble. Disons que il a créé une œuvre musicale avec sa créativité. C'est son propre sens de la musique. Il a aussi fait des jeux musicaux à partir du son des étoiles, à partir des harmoniques et tout ça. Et donc, tout ce qui est créatif musical, c'est lui, mais on a beaucoup travaillé ensemble quand même, d'une manière générale. Voilà. Et on a écrit un livre aussi ensemble.
Ah oui, bien, bienvenue. Oh, Céline.
Bonjour, Claude Samuel.
Bonjour, enchanté.
Enchanté.
Bonjour. Ouais, enchanté.
Bonjour.
Ben bienvenue ici, c'est l'appartement de mes parents en fait, j'ai vécu ici depuis bébé en fait. Donc pour moi, c'est comme presque une extension un peu de ma conscience. Hein. J'ai vu tout à hauteur comme ça, les plaintes, tout ça. Donc, grandi avec.
Et surtout, on voit plein d'instruments.
De musique, une épinette de mes parents qui faisaient de la musique ancienne quand j'étais petit. Et en fait, j'ai évolué même avec les styles de musique. C'est drôle. Une harpe, parce qu'en fait, j'ai joué de la harpe. J'ai eu un deuxième prix de harpe à l'école de musique. Il n'y a pas la percussion, mais j'ai fait de la percussion au conservatoire, aussi à l'école de musique à Agnières. J'ai eu le premier prix. Après, je n'ai pas continué. Après, j'ai fait le conservatoire de Paris avec les ondes Martenot qui sont là.
On voit l'instrument avec le clavier.
Avec le clavier, le ruban, la touche d'expression.
Ici. On est dans un espace où il y a un écran
complètement géant, voilà. C'est-à-dire que c'est un.
Qui vous permet de bien travailler, de bien composer.
Voilà. Oh oui, puis c'est adapté à ma vue, parce que j'ai une mauvaise vision depuis tout petit, parce que, en fait, bon, j'ai un albinisme qui fait que j'ai une déficience visuelle. Très facilement ébloui, donc je suis obligé un peu de tirer les rideaux pour y voir quelque chose, et, parce que sinon, ça me fait tout de suite mal au crâne, la lumière. Mais en même temps, je vis dans. J'ai pas l'impression de vivre dans le noir. Je vis dans des univers. Donc en fait, je vis dans la lumière quelque part, une lumière peut-être intérieure.
La lumière et le son, parce que vous, ce son. Que vous faites, c'est donc
c'est ça.
Cueillir la lumière son des étoiles.
Des étoiles. Alors voilà.
Donc la lumière transposée en son.
Oui.
Pour en composer des mélodies.
Et alors.
Et des symphonies.
Je n'ai pas capté la lumière des étoiles. C'est Sylvie Vauclair qui est l'intermédiaire.
L'astrophysicienne
Sylvie Vauclair. C'est elle qui m'a fait la commande d'une composition de musique des étoiles, donc de musique, mais à propos de données réelles, captées dans les étoiles. Une étoile, en fait, elle vibre autour, disons, d'une certaine fréquence, et ça ne se représente pas comme les harmoniques d'un violon ou d'une harpe ou d'une corde ou d'une lame métallique comme on connaît, mais c'est des harmoniques sphériques, et donc ces harmoniques s'étalent autour d'une fréquence centrale qui est d'amplitude maximale. Donc c'est une erreur de dire la fréquence maximale, attention, on dit fréquence d'amplitude maximale, et ensuite les harmoniques se répartissent un peu comme la main, là, c'est comme une courbe en cloche en fait. Hein. Et autour, la répartition, c'est moins d'une octave, en fait. Une octave ou une octave et demie, en gros. Hein, donc, on va avoir, par exemple, autour du sol dièse, ici, sur le piano. Non, alors là, je vais transposer. Parce que c'est un piano Ola 423. Et maintenant, on est Ola 440, officiellement. Depuis certaines personnes, depuis le XXe siècle. Mais on va dire que ça, c'est le sol dièse. Là va sonner le plus fort, mais autour. Mais c'est pas beaucoup, c'est pas. On n'aura pas ces notes-là, par exemple, dans les harmoniques du soleil. C'est assez resserré.
Alors, expliquez-nous un petit peu votre démarche.
Alors, voilà.
Vous êtes parti de 12 étoiles.
Je suis parti de 12 étoiles. Donc, Sylvie m'a envoyé justement les fréquences ici d'une douzaine d'étoiles. Alors ici, je repars de vidéos que j'ai faites, mais ces vidéos, elles reprennent un petit peu. Alors ici, on a donc le synthétiseur d'étoiles, donc ici, on a les fréquences et
en
les
fait,
amplitudes.
C'est des colonnes de valeur. En fait.
Voilà, c'est des colonnes de valeur. Donc on a une fréquence, alors grand F, petit F, parce que j'ai dû avec le logiciel séparer, rajouter les choses pour recomposer, parce que on pouvait. C'est les chiffres après la virgule. Ça, faut considérer que c'est ça. Ici, ce sont les amplitudes. Alors ça, c'est pour le soleil dont on dispose le plus d'harmoniques. Donc, soleil transposé 18 octaves.
Pour le rendre audible.
Pour le rendre audible, voilà. Et ça donne un son à peu près comme ça. Voilà, ça c'est, nous entendons le soleil. En fait, Sylvie avait choisi 12 étoiles qui se répartissent qui s'étendent sur une gamme à peu près, une assez grande étendue sur la gamme audible de l'oreille. Et ici, par exemple, pour l'étoile numéro 1, arbitrairement, alors je les ai classées dans un certain ordre particulier. C'est dans l'ordre de leur grandeur, de leur taille. Donc c'est-à-dire que plus une étoile est grosse, plus elle est grave. Alors, le morceau d'introduction, c'est un peu comme un ballet qui présente les 12 étoiles à la fois.
12 personnages.
Comme 12 personnages, exactement. Et donc, on aura nos 12 personnages qui se présentent mêlés, vraiment dans l'ordre, comme les Dalton, en fait. Et on va précisément écouter la... Alors, c'est intro août 2014, voilà. Et on va les entendre ici successivement dans l'ordre répété. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, en fait, voilà. Alors là, il y a deux térémines. Alors c'est assez complexe, c'est une musique assez complexe parce que j'aime beaucoup la musique du XXe siècle. La do mi fa do mi bémol fa bémol la bémol do ré. Alors là je dis les notes au demi-ton près, hein. Mais donc là il y a deux térémines qui vont se croiser. Plutôt un effet là. Là, on les entend les 12 énoncer très rapidement, et alors ensuite. Par exemple, nu de l'Indien. Bon, ben elle est très grave là, celle-là. Donc, celle-ci, c'est le son de l'étoile brute transposé code 18 octaves, mais notre oreille entend plutôt un bruit. Hein. Alors, pour faire de la musique à partir de ça, c'était, il fallait que je transpose de 20 octaves. Donc, voici ce que j'ai transposé de 20 octaves, l'énoncé en fait de l'étoile. D'ailleurs, on l'entend le grondement.
Ah oui.
Voilà en arrière-plan le grondement.
On continue.
Oui, oui. Mais ensuite, ici, je l'ai quand même transposé 20 octaves et 19 pour qu'on entende. Un mi, le mi étant la note, on va dire fondamentale, c'est-à-dire l'harmonique qui est la plus forte dans résonance. Donc voilà, ça c'est mu indien, mu ind.
Est-ce que vous pourriez décrire ce qui se passe, parce qu'en même temps, on croirait être devant une symphonie, un orchestre, et que vous êtes le chef d'orchestre, parce que là il y a la timeline qui défile.
Voilà, alors en fait, quand je compose, j'ai composé assez symphonique. Et on a l'onde Martenot qui est par-dessus, sur lequel je joue là. Et à l'écran, en fait, j'ai fait non seulement les musiques, mais j'en ai fait un peu plus que ce qu'on me demande. C'est-à-dire que j'ai fait des vidéos. Et les vidéos représentent la partition d'orchestre sous une forme pas tout à fait habituelle, puisque on voit visuellement quel instrument joue quoi, avec les lignes mélodiques. Et donc, on a ici les cuivres, les bois, les cordes qui jouent. Et donc j'ai pris... Ah oui, parce que les rythmes aussi. J'explique que les rythmes sont proches des multiples de la fréquence de l'étoile. Parce que la fréquence maxime, une fréquence, c'est une note de musique, mais c'est aussi un rythme. Eh bien, transposer... Da, 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 da. Ta, 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 ta. Peu importe si je fais deux fois plus lent ou deux fois plus rapide, ce sont des multiples aussi de la fréquence de l'étoile. Et il s'est trouvé que les notes assez simples, je fais souvent ça dans les reportages, les siffles. Et ici, c'est la fin de la musique. Donc ici, j'ai documenté, ici, effet audio artistique sur l'étoile. Donc là, c'est du rêve, un peu de... C'est... Et à la fin, ça va être de plus en plus de la science. Voilà. On entend encore des effets, des... Et là maintenant, c'est le son brut de l'étoile, réel. Réel tel que capté par les données que m'a transmises Sylvie Vauclair.
Avec un collègue, Michel Tagère, qui est plus théoricien des hautes énergies, il m'avait donné l'idée en fait, de sonifier le signal. Alors, ce n'est pas un signal radio, c'est un signal en rayons X qui vient de la matière qui tourne très très vite autour d'un trou noir avant de tomber dessus. C'est ce qu'on appelle le disque d'accrétion. La matière, quand un trou noir qui est un espèce de lavabo cosmique, quand il avale de la matière, il ne l'avale pas directement en ligne droite. En général, la physique fait que cette matière se met à tourner dans un disque. Et il va y avoir énormément de collisions dans ce disque. La matière va être portée à très haute température et donc émettre des rayons X. Quand on est près du bord interne du disque, juste avant que la matière tombe dans le trou noir, on peut tourner à des milliers de tours par seconde, donc très très rapidement. Et donc, on observe des rayons X qui vont être modulés justement à quelques kilohertz. Et c'est ce signal qu'on a transformé en son et qu'on a appelé le dernier cri de la matière qui tombe dans le trou noir. Il faut un peu d'imagination pour se représenter le phénomène. Il s'appelle GRS 1915 plus 105. Nom très poétique. En général, GRS, ça veut dire gamma ray source. C'est une source qui émet des rayons gamma, mais aussi des rayons X, en l'occurrence ici. Et les chiffres qui sont derrière sont les coordonnées de cet objet dans le ciel.
Merci à Sylvie Vauclair, Claude Samuel Lévin, Benoît Mosser et Philippe Zarka. Mixage, Pierre-Henri. Attaché d'émission, Marie-Vonna Bolivier et Anaïs Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Science en son, astronomie, les vibrations du cosmos. Un documentaire de Céline Lozen et Guillaume Baldi.